en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Les comètes fascinent les hommes depuis l'Antiquité. Ces objets spectaculaires et éphémères ont pendant longtemps été considérés comme des signes de mauvais augure. Au cours de la dernière décennie, notre compréhension des comètes a beaucoup évolué, notamment grâce aux missions spatiales Deep Impact, Epoxy ou encore Stardust Next, qui nous ont fourni des images fantastiques de ces petits corps glacés. Au cours de son intervention au Bureau des longitudes en avril 2011, Olivier Groussin, du laboratoire d'astrophysique de Marseille, nous présente l'état actuel des connaissances sur ces objets passionnants, témoins de la formation et de l'évolution du système solaire. Cette conférence du Bureau des longitudes avait lieu en avril 2011. Pour suivre au mieux les explications d'Olivier Groussin, nous vous invitons à télécharger sur le site internet de Canal Academy le support visuel de sa communication. Tout de suite, Olivier Groussin.
Donc je vais vous parler pendant une heure des comètes. Alors je vais essayer de prendre un peu, essayer de présenter un petit peu l'inventaire des connaissances aujourd'hui sur ces objets. Et on va commencer par faire un petit peu d'historique et petit à petit on va arriver donc jusqu'aux missions spatiales aujourd'hui. Parce que je trouve que c'est toujours intéressant de revenir un petit peu en arrière dans l'histoire pour voir comment les idées ont évolué au cours du temps sur les objets ou les sujets quels qu'ils soient. Alors les comètes, elles fascinent les hommes depuis extrêmement longtemps, ça on le sait bien. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est une vieille histoire. Donc ça a commencé il y a plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Et les premières traces écrites qui parlent de comètes, on les retrouve chez les Chaldéens. Donc les Chaldéens, vous le connaissez, vous savez probablement, donc c'était donc une civilisation qui était entre le Tigre et l'Euphrate, donc dans ce qui serait aujourd'hui l'actuel Irak, au temps de Babylone. L'avantage, c'est qu'à cette époque-là, disons, il y avait l'écriture cunéiforme qui avait été inventée. Donc dans les tablettes d'argile, ils racontaient à peu près tout ce qu'ils faisaient, que ce soit du point de vue disons, de leur vie économique, de leur vie politique, de leur marchandage, de leurs échanges, etc. Mais ils parlaient aussi effectivement des objets qu'ils trouvaient dans le ciel, donc ce qui se passait au-dessus d'eux la nuit. Donc à cette époque-là, la nuit était beaucoup plus claire qu'elle l'est aujourd'hui, et les étoiles fascinaient les hommes beaucoup plus qu'elles le font quand on sort dans les rues de Paris le soir. Alors ils avaient le bon goût de noter tout ce qui se passait, et donc ils notaient aussi les comètes. Donc de temps en temps, ils voyaient ces objets qui passaient dans le ciel, et ils ont pu comme ça répertorier le passage de plusieurs comètes. Alors à l'époque, ils n'essayaient pas de comprendre, ils se contentaient en fait de noter les observations, à quel moment passe tel objet, etc. Alors il n'y avait pas l'interprétation, mais c'est un travail qui a été extrêmement important pour la suite, puisqu'en retournant après, plus tard, au temps de la Renaissance, même pour retourner dans ses écrits anciens, on a pu retrouver comme ça le passage de comètes qui était passé dans les siècles précédents, et on a pu comme ça en apprendre plus sur leur périodicité ou des événements majeurs qui avaient pu avoir lieu à ces moments-là. Donc c'était quelque chose d'extrêmement intéressant, et disons que ce serait environ quelques siècles avant Jésus-Christ les premières traces écrites de comètes. Alors, si on fait un bond dans le temps, on arrive au temps des Grecs. Alors les Grecs, bon, le point important sur les Grecs, c'est d'abord que le mot comète qu'on utilise aujourd'hui vient du grec cométès, qui signifie astre chevelu. Donc le mot qu'on utilise aujourd'hui est d'origine grecque, donc c'est à eux qu'on doit, disons, l'origine du mot comète. Alors les Grecs avaient différentes visions des comètes. Alors à cette époque-là, évidemment, on était dans un monde géocentrique, donc c'était le monde de Ptolémée, donc la Terre était au centre de l'univers et tout tournait autour de la Terre. Et les comètes, elles n'étaient pas parfaites. Elles n'étaient pas parfaites parce que ce n'étaient pas des sphères comme peuvent être la Lune ou le Soleil. Et elles avaient une traînée, elles n'étaient pas toutes pareilles, etc. Donc ça posait un peu des problèmes. Donc on se disait que ça ne pouvait pas être des phénomènes qui étaient extraterrestres, puisque tout ce qui était au-delà de la sphère de la Terre, disons de l'atmosphère terrestre, c'était le monde parfait. Donc on ne pouvait pas imaginer des objets imparfaits au-delà. Donc Aristote, lui, pensait, pour cette raison-là, donc 350 ans avant Jésus-Christ, que les comètes étaient des phénomènes, disons, atmosphériques, donc ce qui se passait dans l'atmosphère. Et comme lui voyait le monde avec quatre éléments, donc la terre, l'eau, l'air et le feu, il pensait que, en fait, les comètes, c'était des objets qui étaient dans le domaine, disons, dans la sphère de l'air et qui remontaient dans la sphère du feu. Donc, en fait, en traversant un petit peu cette zone, pour retrouver leur équilibre originel de retourner dans la sphère du feu, il y avait ces espèces de traînées. Donc ça, c'était l'interprétation, disons, qu'en faisait Aristote à cette époque-là. Alors après, un peu plus tard, il y a eu Sénèque, donc un petit peu, 50 ans après Jésus-Christ. Alors Sénèque, ce n'est pas un grec, c'est un romain. Et pour lui, Sénèque, les comètes, c'est clairement des astres indépendants. Donc il est à peu près sûr que ce ne sont pas des phénomènes atmosphériques, mais que ce sont des corps à part entière qui se baladent dans l'espace. Alors, probablement qu'il considère qu'elles tournent autour de la Terre. Et ce qu'il dit, c'est qu'il pense qu'en fait, elles sont périodiques. C'est-à-dire qu'il dit, ah, mais elles doivent, comme elles tournent comme ça, on doit pouvoir les voir revenir de temps en temps. Mais il pense à l'époque que les périodes sont trop longues pour qu'on puisse les voir à l'échelle d'une vie humaine. Et il dit qu'il faudra effectivement des générations et des générations d'astronomes pour qu'on puisse en apprendre plus sur ces corps-là et comprendre à quelle période ils reviennent. C'est quand même une avancée extraordinaire parce que comprendre qu'une comète est périodique, vous allez voir que c'est une idée qui va se perdre en fait dans le temps et qui reviendra uniquement à la Renaissance. Alors à côté de ça, dans des civilisations complètement séparées, on peut regarder ce qui se passait en Chine, donc il n'y avait pas de contact avec les Grecs à l'époque, du moins plus scientifique disons, et ils écrivaient sur des livres de soie et on a retrouvé comme ça des exemples ici d'un livre avec différentes formes de queue et de chevelure pour les comètes. Donc on est à peu près sûr qu'à cette époque-là, ils étudiaient les comètes. Alors ils mentionnent pas mal une comète qui revient de façon, qui semble, disons, être décrite, qui ressemblerait à la comète Halley, donc la comète de Halley qui a une période de 76 ans. Donc peut-être qu'à cette époque-là, déjà, sûrement ils avaient observé la comète de Halley, mais ils avaient peut-être aussi compris qu'elle pouvait revenir de temps en temps, mais c'est à peu près sans certitude. Alors si on avance dans le temps maintenant et qu'on regarde un peu ce qui se passait en Europe, les comètes, ça a été vraiment le truc. Alors c'était au Moyen-Âge, donc toutes les avancées scientifiques étaient en grande partie inhibées par la religion. Alors il y a eu quelques universités qui sont créées, un peu dans cette période-là, au milieu du Moyen-Âge. Mais par rapport aux avancées qu'il y a pu avoir après, c'était assez dérisoire. Et en fait, à cette époque-là, on se contentait, disons, de transporter les idées de Ptolémée du monde géocentrique et de les retranscrire dans les livres. Donc on faisait plus de la copie que vraiment de la découverte. Et on pensait à cette époque-là que les comètes étaient vraiment de mauvais augure, ce qui est assez bien résumé en fait dans l'histoire de Astérix, où Astérix nous dit que le ciel va tomber sur la tête. Et à cette époque-là, c'est vraiment l'idée qu'on en avait. Et on le retrouve dans des gravures. Donc vous avez ici une gravure qui vous montre donc une comète qui passe dans le ciel et qui laisse derrière elle une ville dévastée. Ou encore à droite, donc des pluies, des espèces de comètes qui tombent sur la Terre et qui sèment le chaos en surface. Donc on n'avait aucune compréhension scientifique de ces objets-là et on était complètement dans la superstition à s'imaginer qu'en fait, elles étaient vraiment signes de mauvais augure. Alors c'était bonne ou mauvais augure. Au Moyen-Âge, pour les Européens, c'était le plus souvent de mauvais augure. Et c'est en fait, il y a des coïncidences, disons, qui sont purement fortuites, mais il se trouve qu'il y a de nombreuses comètes qui sont remarquables, disons, qui sont passées à les années où sont décédés des personnages célèbres du Moyen-Âge. Donc, soit Attila, Valentin, Mérovée ou Mahomet, à chaque fois, on a une comète qui est passée dans le ciel cette année-là. Donc, les gens se disaient, ah ben voilà, vous voyez, la comète est arrivée et le roi ou le prophète est mort. Donc c'était complètement fortuit, mais du coup ça supportait l'idée qu'on pouvait avoir des présages mortuaires. Alors il y avait aussi des présages guerriers, alors là c'est de bonne ou mauvaise augure. Ça c'est en 1066, donc il y a la comète de Halley qui est passée, et le duc de Normandie, donc qui est plus connu sous le nom de Guillaume le Conquérant, qui menait bataille à Hastings, et lui il a vu la comète et il a dit « Ah mais moi je pense que la comète va être de bonne augure et qu'elle va nous faire remporter la bataille ». Les Anglais, eux, l'ont vu d'un autre œil, ils se sont dit « Ah là là, catastrophe !» et bon, effectivement... Ça, c'est un peu la légende, mais disons que ce qui est sûr, c'est que le duc de Normandie a effectivement gagné la bataille de Hastings contre les Anglais, et ça a été le début de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Donc ça, c'est retracé dans la tapisserie de Bayeux, donc du XIe siècle, où on voit, donc c'est une tapisserie moyenâgeuse, donc vous avez en haut ici la comète de Halley, donc, qui a été vue du bon œil par le duc de Normandie. Alors ça, c'était pour les aspects un peu présages, superstitieux. Maintenant, si on revient un petit peu à l'aspect scientifique qui nous intéresse, on arrive à la Renaissance, et à la Renaissance, tout s'accélère. Alors c'est une Renaissance artistique, culturelle, au point de vue de la civilisation, mais c'est aussi une Renaissance scientifique. On sort un petit peu du trou noir du Moyen-Âge, au moins du point de vue européen. Alors, pour l'histoire du Moyen-Âge, j'ai pris quelques dates ici qui concernent les comètes. Donc on peut dire que la première avancée sur les comètes, elle date du début du XVIe, donc c'est en 1531. Donc il y a deux astronomes allemands qui s'appellent Frascator et Bienowitz. Et ces deux Allemands ont compris en fait que très probablement la queue des comètes devait être opposée au Soleil. Donc ça voulait dire qu'ils comprenaient que c'est des objets qui étaient dans le ciel, qu'il y avait effectivement une traînée derrière eux, et ils se disaient qu'ils constataient, disons en tout cas avec leurs observations, que la queue était toujours opposée au Soleil. Donc il y avait clairement une émanation de matière qui sortait de quelque part, donc on verra plus tard le cœur de la comète, et qui s'échappait dans le ciel. En 1577, Tycho Brahe, donc, qui était un observateur hors pair, Donc il a fait beaucoup d'instruments pour mesurer donc essentiellement les étoiles, la position des astres, disons en général dans le ciel, les étoiles et les planètes. Et il faisait ça avec une grande précision. Et il a réussi à observer une comète à deux endroits différents, donc à faire en fait de la parallaxe. Et il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à trouver de différence des observations. Donc il en a conclu que la comète qu'il observait était à plus de 4 fois la distance Terre-Lune. Alors ça, c'était fondamental parce que ça montrait qu'il y avait effectivement des objets qui pouvaient être au-delà de la Lune. Et donc l'idée des sphères avec la sphère des étoiles, etc., qui serait relativement proche, ça ne marchait pas très bien. Il y avait déjà Copernic qui avait eu ses idées de la révolution héliocentrique. Donc ça commençait à percer. Donc on commençait à dire effectivement la Terre n'est plus le centre de l'univers, mais les planètes, en général, tournent autour du Soleil. En 1609, donc Kepler, lui, ce qu'il pensait des comètes, c'était qu'elles suivaient des trajectoires rectilignes et qu'elles allaient à vitesse variable. Donc il mesurait dans le ciel, il disait, bon, a priori, la trajectoire doit être rectiligne, mais la vitesse va varier avec le temps. Le gros problème de Kepler, c'est qu'il ne comprenait pas d'où elles venaient, donc il disait, ah ben, ce sont des générations spontanées, elles apparaissent comme ça tout d'un coup dans le ciel. Alors il se trouve que Kepler était astrologue aussi royal, donc à l'époque. Et donc, bon, c'était un peu son côté présage qui devait rester. Il disait, bon, on a une génération spontanée de comètes qui apparaît comme ça. En 1652, si on avance un peu, là, on prend une tournure un peu plus scientifique puisqu'on se dit qu'elles doivent suivre des trajectoires elliptiques, ce qui est la vérité. Donc, Ward comprend qu'effectivement, ces comètes, en fait, ne suivent pas des trajectoires rectilignes, mais qu'elles ont effectivement elles suivent des ellipses. Et il comprend aussi que, comme elles suivent des ellipses, elles s'éloignent, elles s'approchent du Soleil, donc aussi de la Terre. Et finalement, elles ne sont visibles que quand elles sont suffisamment près du Soleil et aussi de la Terre. Et on comprend pourquoi c'est des objets qui apparaissent tout d'un coup comme ça dans le ciel. En 1687, Newton, donc, qui a fait donc, la loi de la gravitation, donc, il l'a appliquée aux planètes. Il a quand même mis du temps, au début il n'y croyait pas, mais il a mis du temps à accepter l'idée que les comètes avaient effectivement une masse et que donc elles suivaient les lois de la gravitation comme le font les planètes. Donc à partir de là, on peut calculer leurs orbites. Et c'est ce que fait Edmond Halley. Et Edmond Halley observe la comète donc, qui porte son nom, la comète de Halley, en 1682. Il calcule la trajectoire et il prédit le retour de la comète pour 1758. Alors quand il a fait la prédiction, il a été malheureux parce qu'il avait bien compris que malheureusement, il ne serait plus de ce monde quand la comète reviendrait. Mais la comète est effectivement revenue et le soir de Noël, donc 16 ans après que Halley soit décédé, la comète est effectivement revenue et du coup, cette comète, depuis, porte son nom puisque c'est la première comète périodique qu'on a découverte. Alors ça, c'est l'histoire, disons, scientifique du point de vue de l'homme, mais évidemment, l'histoire, elle a commencé il y a beaucoup plus longtemps. Donc c'est une histoire qui est liée à la formation du système solaire pour les comètes. Donc là, j'ai résumé en 4 étapes la façon dont on voit à peu près la formation du système solaire aujourd'hui. Donc la première étape, c'est qu'on a un nuage de gaz et de poussière qui s'effondre pour former un disque donc, qui tourne autour du Soleil. Donc la deuxième étape, c'est que dans ce disque, on forme des planétésimaux. Alors les planétésimaux, ce sont des corps qui sont de taille variable. La définition n'est pas très claire. Ça va de 1 km jusqu'à quelques centaines de kilomètres, pourquoi pas un millier de kilomètres. Mais en tout cas, ce sont des corps qui sont suffisamment gros pour qu'ils soient dominés par la gravité. C'est-à-dire que c'est l'accrétion de corps de plus en plus gros comme ça qui se fait. Alors la formation de ces corps est sujet à débat, mais en tout cas, ce sont les corps qui servent pour les embryons des planètes. Alors près du Soleil, on forme des corps, disons, de la taille de la Lune ou de Mars, et beaucoup plus loin, on forme des super-terres, donc des objets un peu plus gros, autour duquel le gaz vient s'accumuler pour former les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors ça, c'est un processus extrêmement rapide qui se fait, disons, en moins de 5 millions d'années pour les planètes géantes. Pour les planètes proches de la Terre, les objets ensuite se mettent encore entre eux pour former des objets plus gros, donc de la taille de la Terre. Et on pense aujourd'hui qu'une partie, en tout cas, de l'eau qui est arrivée sur Terre est arrivée à ce moment-là d'objets qui venaient probablement de 2, 3, 3,5 unités astronomiques et qui se seraient intégrés à la Terre à cet instant. Donc les petits corps et dans tout ça, en fait, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont tous les corps qui ne se sont pas accumulés dans les planètes. Donc les astéroïdes et les comètes qu'on voit aujourd'hui, ce sont des objets qui sont les résidus de cet instant où les planètes se sont formées. Alors vous connaissez probablement les astéroïdes et les comètes. Donc vous avez des images ici donc, d'astéroïdes et ici donc, de comètes. Mais il y a aussi d'autres objets dans le système solaire dont on ne parlera pas aujourd'hui. Par exemple les objets transneptuniens, donc, qui sont les objets au-delà de Neptune, dont Pluton est l'éminent représentant. On a aussi donc les troyens de Jupiter ou de Neptune, qui sont des corps qui sont au point de Lagrange de ces planètes-là. Et on a les centaures, qui seraient des objets intermédiaires entre les objets transneptuniens situés au-delà de Neptune et les comètes à courte période qu'on observe aujourd'hui. Donc finalement, on a une multitude de petits objets qui nous renseignent sur le système solaire. Concernant les comètes, elles viennent essentiellement aujourd'hui de deux réservoirs. Donc on sait qu'on a une partie des comètes. Alors quand je dis on sait, c'est les calculs dynamiques nous montrent que, puisqu'on n'est pas là depuis l'origine du système solaire pour voir tout ce qui s'est passé. Mais disons, le scénario dynamique aujourd'hui le plus probable, c'est qu'il y a une partie des comètes qui proviennent de la ceinture de Kuiper, donc c'est ce qu'on appelle les comètes à courte période, et ces comètes donc, pourraient venir de cette ceinture de Kuiper, donc les objets qui contient donc les objets transneptuniens situés au-delà de Neptune, passer par un stade intermédiaire de Centaure entre Saturne et Jupiter, pour venir encore dans le système solaire interne pour donner les comètes à courte période qu'on connaît bien, telles que la comète Tempel 1 qui a été déjà visitée par deux missions spatiales. Donc ça, c'est le scénario pour les comètes à courte période. Alors ça, le scénario est expliqué dynamiquement. Maintenant, les propriétés physiques qu'on observe aujourd'hui de ces corps, elles ne sont pas forcément bien comprises et le scénario dynamique, disons, n'est pas encore parfaitement bien vérifié. La deuxième source de comètes, c'est les comètes à longue période. Alors la plus connue, c'est la comète Albop. Donc ça, c'est des comètes qui vont passer et qui vont avoir des périodes, disons, de supérieures à 1000 ans. Donc typiquement, c'est supérieur à 200 ans, mais Albop, je crois que c'est 1600 ans, quelque chose comme ça. Donc ces comètes, elles viennent d'où? Alors en fait, elles viennent, paradoxalement, elles viennent de plus près que les comètes de la ceinture de Kuiper. Donc la ceinture de Kuiper, c'est au-delà de Neptune. Mais les comètes du nuage de Oort, au début, elles étaient situées dans la région des planètes géantes, donc vers Jupiter, Saturne, Uranus. Donc elles étaient plus près que les comètes qui viennent de la ceinture de Kuiper. Mais elles ont été éjectées donc très loin, donc dans le nuage de Oort. Donc là, on est à environ 10 000 unités astronomiques. Par le passage d'étoiles et de nuages moléculaires, on pense que leurs orbites ont été à peu près circularisées, enfin stabilisées, disons, dans ces endroits-là. Et ensuite, par le nouveau passage d'étoiles ou de perturbations gravitationnelles, donc de nuages moléculaires, elles ont été réinjectées de nouveau dans le système solaire. Donc ça, c'est l'idée qu'on se fait de ces comètes-là. Donc en fait, on a deux populations, une population qui viendrait d'assez loin, qui est aujourd'hui pas les comètes à courte période, et une population qui donnerait un échantillon du système solaire un peu plus proche, mais qui ces comètes, donc à longue période, il y en a un peu moins, et comme elles ne passent qu'une fois, évidemment, c'est difficile de les suivre dans le temps. Donc la comète Tempel 1, à titre d'exemple, elle repasse tous les environ 6 ans. Alors donc finalement, le message important, c'est que les comètes, elles datent de la formation du système solaire, et donc elles nous renseignent sur ce qu'était le système solaire au départ. Donc elles ont été bien préservées, pardon, donc en gros on les a mis au frigo, et quand on les observe aujourd'hui, ça nous renseigne sur ce qu'était le système solaire au début de la formation. Ça, c'est l'intérêt scientifique qu'on a à étudier les comètes. Alors, pendant très longtemps, quand on a observé les comètes, donc on voyait donc une grande chevelure, donc composée de gaz et de poussière, la coma au milieu. Donc la coma, c'est en fait la partie qui est centrale. Donc ça mesure sur la comète Albop, c'est environ 10 000 km pour avoir les ordres de grandeur. La queue de gaz et de poussière sur Albop, c'est plusieurs dizaines et même c'est plusieurs centaines de millions de kilomètres. Donc c'est quasiment une unité astronomique. C'est gigantesque. Et on a une partie aussi de gaz ionisé. Donc le gaz ionisé est séparé de la poussière, puisque donc, la poussière est poussée par le vent solaire, donc il pousse les particules de poussière, alors que le gaz ionisé, lui, suit les lignes de champ magnétique du Soleil. Donc elles ne sont pas exactement au même endroit. Donc on a comme ça de magnifiques images. Alors pendant très longtemps, ce qu'on s'est demandé, c'est finalement qu'est-ce qu'il y a au milieu? Parce que qu'est-ce qui donne naissance à ça? Alors aujourd'hui, la réponse vous paraît peut-être évidente, mais elle n'a pas été pendant très longtemps. Et elle n'a pas été jusqu'à très récemment, parce qu'en fait, jusqu'en 1986, avant le survol de la comète Halley par la sonde Giotto, il y avait encore plusieurs théories qui circulaient. Donc on se demandait si ce n'était pas d'abord un seul corps solide au milieu, ou alors un assemblage de petits corps entre eux, ou peut-être même des objets, disons, diffus à côté des autres, mais liés gravitationnellement. Mais enfin, ce n'était pas très clair. Et même, il y avait beaucoup de scientifiques très sérieux qui pensaient que ce n'était pas forcément un seul noyau solide. Donc 1986, ça ne fait pas très longtemps, hein, donc ça ne fait même pas 30 ans. Alors, grâce aux observations donc, de la comète de Halley en 1986, la question a été réglée. Donc ce sont des images qui ont été prises donc, à droite, notamment, du noyau de la comète Halley en 1986 par la sonde européenne Giotto. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que la première chose, d'abord, c'est qu'on a effectivement affaire à un noyau solide. Donc, au centre, on a bien un seul corps, on n'a pas un ensemble de corps les uns accrochés aux autres, on a un seul corps solide qui forme ce qu'on appelle le noyau. Donc ça, c'est le noyau de la comète. Et c'est à partir de ce corps que se passe le dégazage qui donne ensuite naissance donc, à la queue de gaz et de poussière. Une remarque qui a été importante à l'époque, c'est que le noyau il était très sombre. Donc il avait un albédo de 4%. Donc c'est extrêmement sombre, c'est un peu comme du charbon. c'est plus noir que, qu'un pull noir si vous en avez un, ou que mon pantalon noir d'ailleurs, c'est vraiment extrêmement sombre. Et par conséquent, aussi le noyau il est chaud. Donc comme il est sombre, il absorbe énormément l'énergie du soleil, il n'en rémet pas beaucoup, il en réfléchit peu, et donc il est chaud. Et le noyau est extrêmement chaud, donc il est à peu près à l'équilibre en fait, à la température d'un corps noir à la distance du soleil, donc qui varie pour les comètes. Donc ça c'était la première découverte, on a effectivement un noyau solide au milieu. Alors une fois qu'on avait compris qu'il y avait un noyau solide au milieu, on s'est dit ah bah du coup on va pouvoir étudier les comètes et puis aller détecter les noyaux. Donc il y a eu des progrès instrumentaux qui ont été faits, notamment avec par exemple Hubble ici, ou l'apparition des deux grands télescopes Keck à Hawaï, plus récemment le VLT, ou ça c'est le satellite Spitzer dans l'infrarouge, qui ont réussi, du coup on a pu développer des techniques pour aller détecter le noyau. Au départ, on ne savait pas ce qu'il y avait au milieu, donc on ne savait pas ce qu'on cherchait, donc c'est toujours difficile. Une fois qu'on savait ce qu'on cherchait et que les instruments le permettaient, on a pu trouver des noyaux comme ça et faire des observations, disons, indirectes du noyau. Donc aujourd'hui, on a détecté à peu près une centaine de noyaux cométaires. Donc c'est pour vous montrer qu'en gros, aujourd'hui, on a des noyaux de différentes tailles qui ont été observés. L'essentiel, ils ont tous des tailles qui vont, disons, de quelques centaines de mètres pour les plus petits à 50 km pour les plus gros. Et ils tournent sur eux-mêmes avec des périodes, disons, qui varient de 5 à 70 heures. L'essentiel a des périodes de rotation qui sont comprises entre 6 et 15 heures. Donc c'est des objets qui tournent quand même assez vite sur eux-mêmes. Et certains sont assez allongés. Alors, ils ne sont pas parfaitement sphériques, ils sont un peu allongés, ça fait un peu des espèces de patatoïdes. Et les plus allongés d'entre eux ont des rapports, disons, entre le petit axe et le grand axe qui sont d'un facteur 3. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire depuis le sol. Évidemment, c'est assez limité, mais c'est déjà pas mal. Donc, plus d'une centaine de noyaux caractérisés en l'espace de, disons, depuis 15 ans, c'est quand même bien. Et sachant que la population, par exemple, là, ce sont essentiellement des comètes à courte période, et la population comprend quelques centaines d'objets. Donc, on a quand même déjà un échantillon assez représentatif de ce que peuvent être ces objets. Alors, on sait aussi, par ailleurs, puisqu'on l'a observé, que le noyau, c'est un corps qui est fragile. On a observé plusieurs fois des noyaux de comètes qui se cassaient. Alors, ils peuvent se casser pour plusieurs raisons. Donc, vous avez ici trois exemples. Donc, le premier exemple, c'est la comète Shoemaker-Levy 9, qui s'est cassée en 1994. Alors, elle s'est cassée parce qu'elle est passée près de Jupiter. Donc, en passant près de Jupiter, en fait, on a les forces de marée donc, qui vont étirer l'objet jusqu'à ce qu'il se casse en morceaux. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour cette comète-là. On a aussi d'autres exemples de comètes. Donc, il y a Swashman-Washman 3, ici, ou Deutoit-Neugemin-Delporte. Alors les comètes, la première, on sait qu'elle s'est cassée à cause parce qu'elle est passée près de Jupiter, mais pour les deux autres, les explications ne sont pas forcément évidentes. Alors elles peuvent se casser parce que le noyau se met à tourner, par exemple, trop vite sur lui-même. Donc si le noyau tourne trop vite sur lui-même, la force centrifuge va être supérieure à la force de cohésion de l'objet, et du coup, en fait, il va se casser en morceaux. Alors après, elles peuvent se casser aussi peut-être si elles rentrent en collision avec un corps plus petit, mais bon là, la probabilité est quand même extrêmement faible. Ou alors elles peuvent se casser à cause du dégazage. On peut imaginer qu'il y a une poche de gaz à l'intérieur. C'est des objets qui ne sont pas très gros. Je vous ai dit, donc typiquement quelques kilomètres. Donc si on a une poche de gaz suffisamment grosse, quand l'objet se rapproche du soleil, alors peut-être que la pression va augmenter et ça peut faire exploser l'objet au moins partiellement. Donc ce sont des objets fragiles. Donc on pense qu'en fait ce ne sont pas des cailloux, disons, solides comme peuvent être les astéroïdes. Alors du point de vue de la composition, on a pu faire donc pas mal de spectroscopie maintenant sur ces objets. L'essentiel de ces molécules, c'est de l'eau. Donc on sait que à 80%, les comètes sont faites d'eau. Alors c'est 80% des molécules des matériaux volatiles, pardon. Donc il y a 50% de glace et 50% de roche. Et parmi les glaces, c'est essentiellement de la glace d'eau. Alors il y a d'autres molécules, essentiellement donc le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2). Et ce qui est intéressant sur les comètes, c'est qu'on a aussi des molécules un peu plus compliquées, telles que le méthane, l'éthane ou l'acétylène. Alors il y a toute une idée qui dit que les comètes auraient pu apporter la vie sur Terre. Donc c'est ce qu'on appelle la théorie de la panspermie. Ce qui est assez sûr, c'est que sur les comètes, on a détecté des molécules organiques. Donc le méthane, par exemple, c'est une molécule organique. Donc c'est des molécules qui sont composées de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, essentiellement. Alors après, à savoir si la vie a pu se développer sur les comètes, aujourd'hui, ça paraît un peu farfelu. Par contre, ce qui n'est pas exclu, c'est qu'effectivement, on ait pu créer des molécules organiques complexes. On en trouve dans le milieu interstellaire. On n'a pas fait l'inventaire total de ce qu'on peut trouver sur les comètes. Et peut-être que les comètes ont pu apporter quelques molécules organiques complexes qui ont favorisé l'apparition de la vie sur Terre. Maintenant, la vie n'est pas arrivée directement par les comètes. Si c'est arrivé, c'est de façon probablement indirect, et il n'est même pas sûr qu'il y ait des molécules suffisamment complexes sur les comètes pour commencer à fabriquer disons l'ADN. Récemment, il y a des travaux qui ont été faits donc par un scientifique donc qui s'appelle Hoover à la NASA et qui lui prétend avoir trouvé des traces de bactéries fossiles dans des météorites. Alors ça a fait pas mal de bruit, c'est très récent, hein, ça a un mois je crois ou quelque chose comme ça. Et il dit que ce n'est pas la contamination terrestre parce qu'il trouve qu'il n'y a pas d'azote en fait dans ces bactéries fossiles, alors que tous les composés sur Terre ont de l'azote puisqu'il y en a beaucoup dans l'atmosphère. Bon, le papier, il a été accepté dans une revue qui s'appelle le Journal de Cosmologie, je crois, ou je ne sais plus exactement le titre. Enfin, ce n'est pas une revue, en tout cas, des plus connues. Mais soi-disant qu'il aurait suivi un processus de... Enfin, qu'il aurait été revu par beaucoup de scientifiques, etc. Alors, c'est remis en cause, mais quoi qu'il en soit, il y a des travaux quand même. C'est quand même quelqu'un d'assez sérieux, donc on peut... la question est posée, en tout cas, de savoir s'il n'y aurait pas de développement possible de bactéries sur ce genre d'objet. Je ne dis pas que j'y crois aujourd'hui, hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ne me faites pas dire ça, mais je vous mets au courant, disons, des travaux récents qu'on trouve dans la littérature. Après, vous ferez votre propre réflexion personnelle sur le sujet. Alors maintenant, ce qui est intéressant avec les comètes, c'est qu'on peut leur rendre visite. Donc là, je vous ai montré ce qu'on peut faire un peu depuis le sol, mais le plus intéressant, c'est d'aller les voir. Donc depuis 1985 et la visite de la comète Halley par la sonde Giotto, il y a toute une armada de sondes spatiales, enfin toute une armada, c'est beaucoup dire, parce qu'il y en a quand même moins d'une dizaine en l'espace de 20 ans, mais disons qu'on a, on a quand même plusieurs missions spatiales qui sont allées voir des comètes. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'elles nous ont appris en allant directement in situ voir ces objets-là. Donc à partir de ces images qu'on a obtenues, où on a commencé à avoir des images qu'on pourrait qualifier des images de haute résolution, on a pu commencer à faire de la géologie sur ce genre d'objet. Donc on se rend compte, donc ici vous avez le noyau, donc typiquement ça fait quelques kilomètres, et on n'a pas quelque chose d'homogène, et on n'a pas non plus quelque chose qui ressemblerait à un astéroïde avec plein de cratères par exemple. Donc là il y a très peu de cratères en surface, on a des parties qui sont des parties un peu lisses, on a des parties un peu plus rugueuses, et on a aussi probablement des légères variations disons en surface de couleur. Alors ça veut dire que finalement, ce sont des objets relativement divers et qu'on n'a pas affaire à quelque chose d'un objet éteint comme un astéroïde, mais ce sont vraiment des objets actifs, comme le démontre la queue donc, qu'ils font lorsqu'ils se rapprochent du Soleil. On est bien loin d'ailleurs de comprendre comment est-ce que ces processus se forment en surface. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a affaire à des objets complexes. Alors ça s'est confirmé ensuite par la comète Vilde 2, donc, qui a été observée donc, par la sonde Stardust. Et là, on a eu un noyau cométaire, mais il semble quand même assez différent du précédent. Donc on a ici, donc on ne voit pas vraiment les surfaces lisses qu'on voyait avant, mais ce qu'on voit, ce sont toutes ces dépressions en surface, comme si on avait, tapé du poing à certains endroits comme ça. Alors la question, c'est quand on voit des dépressions dans le système solaire, on se dit tout de suite, ah ben ce sont des cratères d'impact, donc il y a des impacts d'un objet qui a tapé sur la comète et qui a fait des cratères. Alors c'est peut-être vrai. Simplement, on sait que sur les comètes, il y a beaucoup d'activités, donc il est extrêmement difficile d'exclure que ces formes ne pourraient pas être créées par d'autres phénomènes qu'un cratère d'impact. Donc on pourra imaginer, par exemple, des zones actives, comme je disais, des petites poches de gaz, et quand elles explosent, alors elles laissent derrière elles des phénomènes comme ça qui pourraient ressembler à des cratères d'impact. Alors c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas vraiment bien compris, et je pense qu'on n'a pas vraiment la réponse encore au phénomène pour comprendre en disant et interpréter les zones circulaires qu'on voit sur les comètes. On n'a pas vraiment l'explication ultime. Alors si on continue encore, on fait encore de la meilleure résolution. Donc ça, c'est la mission Deep Impact. Donc il y a des images de la comète Tempel 1. Alors là, les images sont bien meilleures, donc on peut encore améliorer notre connaissance. Et ce qu'on se rend compte sur l'image de gauche, c'est qu'on a clairement, il n'y a pas besoin d'être très malin, pour voir que le terrain est relativement diversifié. Donc on retrouve des surfaces lisses, comme on en avait vu sur Borély tout à l'heure. On a des cratères. Alors là, ça ressemble quand même pas mal à des cratères d'impact tels qu'on les voit sur les astéroïdes. Donc l'idée que ça peut être le résultat d'un impact est quand même assez forte. Mais c'est toujours pareil, comme il y a un processus d'activité, on ne peut pas en être sûr à 100%. Mais bon, ça paraît une hypothèse en tout cas plausible et assez réaliste. On voit aussi une différence entre par exemple ces cratères et ces zones circulaires. Qui semblent être, alors c'est peut-être des cratères qui ont été érodés avec le temps, ou peut-être ce sont des dépressions qui se sont formées par des phénomènes physiques différents, donc pas un cratère d'impact, mais plutôt de l'activité, comme je le disais précédemment. Donc on a en fait une multitude de terrains, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc sur ces surfaces lisses, on ne voit pas de cratères, donc ça veut dire, ou d'altérations. Donc ça veut dire que ces surfaces, ce sont des surfaces jeunes. On sait que si on expose un corps dans le système solaire, petit à petit, il y aura de plus en plus de cratères en surface à cause des impacts. Mais là, on ne voit pas d'impact en surface. Donc on a quelque chose de jeune. Alors, jeune à l'échelle du système solaire, ça veut dire que probablement, ça peut avoir quelques dizaines, centaines de milliers d'années. Mais ce n'est pas quelque chose qui date de sa formation. Donc ça n'a pas 4 milliards d'années. Donc on a en fait des surfaces extrêmement variées, donc avec des régions jeunes, des régions plus vieilles, donc probablement cratérisées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit aussi des strates. Donc on a l'impression qu'on a des strates en surface, donc peut-être des couches qui se seraient mises les unes avec les autres. Donc peut-être qu'on a un phénomène de stratigraphie comme ça sur les noyaux cométaires. Pour expliquer les surfaces lisses, il y a plusieurs arguments. Un des arguments, c'est de dire qu'en fait, on a l'équivalent de ce qui se passe sur les volcans sur Terre, où on a des coulées pyroclastiques. Alors sur Terre, le volcan émet donc la poussière, donc de la roche, et ce matériau coule parce qu'il est fluidifié par l'eau, en fait. Sur les comètes, ce qu'on pense, c'est qu'on peut avoir donc de la poussière qui est dégazée en surface et qu'elle serait fluidifiée non pas par l'eau, mais par le CO ou le CO2. Donc lorsque le CO ou le CO2 va, disons, dégazer à travers, on va avoir en fait un espèce de phénomène comme sur des coussins d'air, si vous voulez, et ça peut fluidifier comme ça le système. Alors ça, c'est une idée qui est assez récente, mais elle n'est pas complètement acceptée ni démontrée. Mais ça pourrait être une idée, en tout cas, pour expliquer pourquoi est-ce que ces coulées sont comme cela. Alors ça paraît d'autant plus intéressant que vous avez une représentation en fait du même noyau, mais avec la gravité, où vous avez les zones les plus basses et les zones les plus hautes. Et on se rend compte que les zones lisses se retrouvent dans les zones les plus basses. Alors ça, c'est intéressant, puisqu'on sait que sur Terre, quand on fait couler un liquide, il va descendre la pente. Donc ce serait assez logique que sur les comètes, quand on fluidifie quelque chose, il descende aussi la pente. En tout cas, ça a tendance à aller dans la même direction. Alors, Tempelin, on a aussi observé l'autre moitié, parce que le problème de ces missions cométaires, c'est qu'on ne fait que passer très vite à un instant T, donc on voit souvent que la moitié de l'objet. Mais on a pu retourner avec la mission Stardust Next. Donc on a pu observer l'autre face du noyau. Vous avez la partie qui a été observée par la mission Deep Impact et les images qui ont été observées par l'autre mission. Alors sur l'autre face, on retrouve aussi des dépressions circulaires. Donc ça semble être des dépressions qui sont assez proches de celles qu'on voyait de l'autre côté. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on zoome, en fait, on a une espèce de stratigraphie. Donc on a comme des terrasses en surface. Donc alors bon, je ne dis pas qu'on va pouvoir aller faire du riz ou quelque chose comme ça sur les terrasses, mais disons que ça supporte cette idée de stratigraphie. Donc on peut imaginer qu'on aurait différentes couches qui se seraient mises les unes avec les autres, et en s'érodant, après, ça peut laisser apparaître les traces. Alors ça, ce sont des images qui datent donc du 14 février, donc là c'est vraiment récent. On est évidemment loin d'avoir compris tout ce qu'on a vu encore. Mais on retrouve des similitudes avec ce qu'on voyait de l'autre côté et ce qu'on peut observer sur d'autres comètes. Alors ça, c'est le noyau de la comète Hartley 2, donc qui lui a été observé par la sonde Epoxy en novembre dernier. Là, on a un noyau qui est beaucoup plus actif, donc il y a énormément de dégazage en proportion de la taille du noyau, et la surface semble être un peu différente. On retrouve des zones lisses, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi beaucoup de blocs en surface, et on verra plus tard la composition de ces blocs. Alors, on ne retrouve pas du tout les cratères ou les dépressions telles qu'on pouvait en voir sur les autres, ce qui laisserait penser que la surface de ce noyau est beaucoup plus jeune. Donc comme c'est un noyau actif, la surface a été, disons, rafraîchie avec le temps régulièrement. Alors on pense que les matériaux qui sont dans la partie lisse seraient des matériaux qui auraient été redéposés. Donc on pense que ce sont des matériaux qui sont éjectés et qui finissent par retomber dans ces parties-là. Ça expliquerait pourquoi ce sont uniquement les matériaux, on n'a que des matériaux assez fins à cet endroit-là. Alors, une autre hypothèse que moi j'aime bien, mais bon, qui ne fait pas encore l'unanimité, c'est de dire que comme le noyau tourne assez vite sur lui-même en quelques heures, et que finalement il a une forme ou une espèce de forme en haltère, donc la masse va être concentrée essentiellement à chaque bout du noyau, donc la gravité va être maximale à chaque extrémité et faible au milieu, peut-être que simplement en tournant, les blocs qui sont situés dans la partie centrale, ils vont être suffisamment gros pour être attirés par chaque bout, et du coup, il ne restera au milieu que les petites particules. Alors bon, je ne sais pas si j'ai raison ou tort. De toute façon, c'est pareil, ça a quelques mois, donc il va falloir faire des calculs pour démontrer quel serait le scénario le plus probable du point de vue physique. Alors évidemment, ce qui est fondamental, comme je disais, c'est que sur cette comète, on a beaucoup d'activités. Vous avez une multitude de dégazages, de jets qui dégazent, donc ici, on les voit très bien, donc sur cette comète. On reviendra sur ça par la suite. Donc finalement, si on essaye de comprendre comment se forment ces noyaux cométaires, il y a une théorie qui a été développée donc, par un collègue, donc Mike Belton, un collègue américain. Ce serait la théorie du modèle en couche. Donc on observe un peu cette stratigraphie sur les noyaux cométaires, on se dit bon, bah, comment ils ont pu se former. Donc l'idée, ce serait de dire qu'on a au début des corps de quelques centaines de mètres et que petit à petit, ils se sont mis les uns sur les autres. Alors il faut imaginer que ça se passe un peu comme avec de la pâte à modeler, c'est-à-dire que la vitesse de collision n'est pas suffisamment forte pour détruire l'objet, mais on va avoir en fait un espèce d'étalement de la matière sur le noyau par couches successives comme cela. Donc petit à petit, on va créer des strates en surface du noyau jusqu'à ce qu'il ait sa forme actuelle. Alors ça, bon, c'est pareil, c'est une idée relativement récente, une idée qui a moins de 200 ans en science peut être considérée comme non sûre, on va dire. Et encore, il y aurait des contre-exemples. Donc c'est, disons, un scénario possible pour expliquer la formation des noyaux cométaires, cette espèce de modèle en couche. Alors sur Temple 1, il y avait un spectromètre donc qui me permet de faire de la spectroscopie et aussi donc de mesurer la température du noyau. Donc ici, vous avez un exemple de la température du noyau de la comète Temple 1. Donc cette comète a été observée donc en 2005. Donc vous avez la carte de température. Alors les températures maximales qui sont mesurées en surface, elles sont de l'ordre de 340 Kelvin. Donc ça fait environ 60 degrés Celsius. Donc là on est à 1,5 unités astronomiques du Soleil. Les modèles y prédisent des températures similaires, donc on est assez content de la façon dont ça se passe. Ce qui est important, c'est que on sait que s'il y a de la glace en surface, elle va se sublimer à une température d'environ 200 Kelvin. Donc c'est beaucoup plus froid que la température qui est mesurée. Si on a du CO ou du CO2, c'est encore plus froid. Donc ce que ça veut dire, c'est que s'il y a de la glace en surface, et on sait qu'à certains endroits on en a, en tout cas elle n'influe pas sur la température du noyau. Donc ça veut dire que probablement qu'on a des zones qui sont un mélange de glace et de poussière, où la glace est effectivement froide, mais la poussière à côté est extrêmement chaude, et suffisamment chaude en fait pour masquer les zones froides de glace. Donc ça, c'est un point important. La glace, à la résolution spatiale qu'on a, en tout cas, elle ne modifie pas la température du noyau. Alors ce qui est important aussi, c'est de remarquer que sur cette image, qu'ici, on a une dépression. Donc on a une dépression avec une ombre projetée. Donc ça veut dire qu'on est à l'ombre. Et il se trouve que quand on est à l'ombre, on a les températures les plus basses. Donc ça veut dire que sur le noyau, dès qu'on est à l'ombre, la température chute très vite. Alors ça, ça veut dire que la conductivité du noyau, donc c'est sa capacité à transporter l'énergie en profondeur, elle est très faible. Ça veut dire qu'instantanément, la température se met à l'équilibre avec l'énergie du soleil. Donc au soleil, il fait la température maximale sous le soleil, et dès qu'on est à l'ombre, la température chute brutalement. Donc ça, ça veut dire que l'énergie, elle se transmet très mal à l'intérieur du noyau, puisque tout se passe en surface. Donc ce que ça veut dire, de façon plus importante, c'est que les couches qui sont à l'intérieur du noyau, elles ne vont pas être modifiées puisque l'énergie du soleil ne va pas pénétrer à l'intérieur du noyau. Donc ça veut dire que quelques mètres sous la surface, et on le reverra ensuite, on peut trouver des matériaux qui, eux, ont probablement peu évolué depuis leur formation. Donc ça, c'est fondamental parce que si un jour on veut faire un retour d'échantillons de noyaux cométaires, on sait que si on est capable de creuser quelques mètres sous la surface, ou même un mètre peut-être, ça peut suffire, on pourra accéder directement à des matériaux qui ont peu évolué. Donc ça, c'est important parce que s'il faut aller creuser jusqu'au cœur du noyau, même à 200 mètres, bon, au niveau challenge technologique, ce n'est pas vraiment pareil, quoi. Donc ça, c'est un point intéressant. Alors évidemment, les matériaux ont quand même pu évoluer un peu puisque l'énergie du soleil peut quand même y aller, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en surface où on est sûr, par contre, que la surface a énormément évolué depuis la formation de l'objet. Alors ce qui est important aussi pour cette comète-là, c'est qu'on a fait un impact. Donc Deep Impact, comme le nom l'indique, le but c'était une expérience où on a impacté le noyau de la comète. Donc on a pu mesurer, enfin on a pu observer cet impact. Alors on commence, donc il n'y a rien, ensuite on a un petit impact qui forme un point lumineux, le point devient ensuite extrêmement brillant, donc il sature d'ailleurs le détecteur. On a un halo ici de gaz et de poussière incandescente qui s'échappe, et ensuite, on a l'éjecta, donc formé lui de poussière, qui va tendance à, qui va se développer et s'agrandir petit à petit. Alors le point important ici, c'est qu'on peut comparer ces observations donc réalisées avec la caméra à ce qu'on fait en laboratoire. Donc ce qu'on remarque, c'est que le flash le plus brillant, il n'est pas directement au départ. C'est-à-dire qu'on a d'abord un flash assez ténu, donc sur les images 2, 3 et 4, et c'est uniquement à la cinquième image qu'on a le flash le plus brillant. Donc si on compare aux observations qu'on peut faire en laboratoire, donc on peut bombarder des billes d'acier sur des cibles, donc ici c'est du sable, avec des porosités différentes. Donc on constate que si on va dans un matériau qui est peu poreux, donc avec 30% de porosité, le flash est immédiat. C'est-à-dire, dès qu'on touche la surface, on va avoir un flash lumineux, toute l'énergie est libérée en surface. Alors que si on a un matériau poreux, l'énergie, donc comme ici, avec 90% de porosité, l'énergie va être dissipée à l'intérieur et le flash en surface va être retardé. Donc en comparant les expériences de laboratoire aux observations in situ, on en conclut que le noyau est poreux. Donc sa densité, elle est faible. Et on a réussi à estimer que la densité du noyau, c'était de l'ordre de 400 kg par mètre cube. Donc pour mémoire, l'eau, c'est 1000. Donc c'est à peu près la moitié de ce qu'on peut trouver sur l'eau. Donc ça, c'était intéressant. C'est vraiment la démonstration de la complémentarité entre expérience de laboratoire et expérience in situ, même si ce sont des manips spatiales à grande échelle. Alors sur la comète, on a aussi trouvé donc de la glace d'eau. Donc vous avez ici donc toujours le noyau de la comète Tempel 1 à gauche, et en bleu clair, ce sont les zones où on a détecté de la glace en surface. Alors comment est-ce qu'on sait qu'on a trouvé de la glace ? Eh bien tout simplement par spectroscopie. Donc on regarde ici un spectre, donc c'est la lumière en fonction de la longueur d'onde, et pour chaque matériau, il y a des bandes caractéristiques pour chaque matériau, et pour l'eau, on sait qu'on a des bandes d'absorption à 1,5, 2 et 3 microns. Donc ces bandes d'absorption nous disent qu'effectivement c'est de la glace d'eau qu'on a en surface. Alors il y a de la glace en surface, mais elle n'est pas en grande quantité. Et en tout état de cause, elle n'est pas en quantité suffisante pour expliquer l'activité entière de la comète. Donc ça veut dire que l'essentiel du dégazage qu'on observe sur les comètes et de l'eau que l'on trouve, elle ne vient pas directement de la surface, mais elle vient de sous la surface. Donc la glace va se fondre, enfin va sublimer sous la surface, traverser la couche, disons, de manteau, et s'échapper ensuite dans l'espace. Donc ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'il y a... Observer la surface, ce n'est pas représentatif forcément de la composition à l'intérieur du noyau. Donc ce qu'on remarque aussi, c'est que les grains en surface, ils sont relativement gros, donc de l'ordre de 10 à 30 microns, donc ça, on peut l'estimer, et vous verrez que ça peut avoir son importance, on va le voir un petit peu par la suite. Alors ce qui est intéressant aussi donc, avec la glace en surface, c'est qu'on la trouve aussi sur la comète Hartley 2. Donc ça, ça a été présenté il y a quelques semaines, donc dans des résultats très récents. Donc vous avez ici le noyau de la comète Hartley 2. Donc ça, c'est la face avant, donc lorsqu'on s'est approché. Et après, vous avez la face arrière lorsque la sonde est partie. Donc on approche, on fait un demi-tour, et après on regarde ce qui se passe derrière. Donc vous avez l'avant et l'arrière de la comète. Donc sur la face avant, en superposition avec l'image, vous avez la présence de glace. Donc en bleu, c'est là où il y avait de la glace, et en rouge, c'est là où vous n'en avez pas. Et on se rend compte qu'en fait, dans toute cette partie-là, donc toute la partie qui est proche donc, de la jonction jour-nuit, on a de la glace en surface. Donc ça, c'est sur la face avant. Maintenant, sur la face arrière, on se rend compte que la jonction jour-nuit, on a énormément de dégazage en surface. Donc on a une forte activité. Alors ça, c'est intéressant parce que peut-être que ça vient en fait d'effets saisonniers. Donc l'explication actuelle, qui va s'avancer avec le temps, mais disons l'explication qu'on en donne aujourd'hui, c'est que peut-être que c'est un effet saisonnier et que vous avez ces zones, disons, avec dégazage qui sortent de l'hiver, donc elles arrivent au soleil, donc c'est le printemps pour elles, si vous voulez. Donc avant, elles étaient dans la nuit polaire. Et en arrivant au printemps, donc elles reçoivent pour la première fois depuis la fin de leur hiver l'énergie du soleil et peut-être elles se mettent à dégazer. Alors que de l'autre côté, vous auriez la fin de l'été, donc le dégazage est probablement en partie terminé, donc on le voit moins, même si ça peut être un effet de perspective. Et par contre, comme il fait relativement froid, on arrive à avoir de la glace en surface. Donc on commence à interpréter ce genre de phénomène par des effets saisonniers. Alors ça peut aussi être des effets jour-nuit sur l'histoire d'une journée, mais on pense que c'est des phénomènes qui sont un peu trop rapides pour se passer à cette échelle de temps, et enfin un peu trop importants, et il faudrait plutôt invoquer des phénomènes saisonniers, donc comme sur Terre, automne, printemps, été et hiver. Alors ce qui est remarquable aussi sur la comète Hartley 2, c'est qu'on a trouvé pas mal de grains de glace dans la coma. Donc vous voyez ici donc, une image du noyau, et vous avez à droite ici donc, le dégazage. Donc quand on regarde un peu plus près, on voit tous ces petits points blancs, et tous ces petits points blancs, en fait, ce sont des grains. Alors au début, on s'est dit, bon, ce sont des grains, mais ce sont des grains de quoi ? Parce que ce sont simplement des objets qui émettent la lumière du soleil. Donc ça peut être des grains de poussière ou des grains de glace. Mais pour avoir la certitude, eh ben en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire de la spectroscopie encore. Donc on prend des spectres. Et vous avez ici un exemple d'un spectre qui correspond au carré qui est ici. Donc ça vous donne de l'information sur la composition de ces grains. Et ce qu'on se rend compte, c'est que c'est comme précédemment, on retrouve les bandes d'absorption à 1,5, 2 et 3 microns. Et donc ça, ça vous donne directement l'indication que à cet endroit-là, vous avez effectivement des grains de glace en surface. Alors les grains sont extrêmement petits, de l'ordre de 1 micron, donc ils sont plus petits qu'en surface, et ils sont relativement purs, c'est-à-dire qu'ils sont a priori pas mélangés avec la poussière. Alors si on compare ça à ce qu'on a observé sur la comète Tempel 1, on peut comparer aux matériaux qu'on a excavés par l'impact. Donc il y a eu l'impact, il y a des matériaux qui ont été éjectés, et on peut regarder la composition des matériaux qu'on a éjectés. Et sur les matériaux qu'on a éjectés, on retrouve aussi toujours cette bande d'absorption de caractéristiques de l'eau à 3 microns, et on se rend compte aussi qu'on a affaire à des petits grains. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la forme de la bande dépend de la taille des grains. Donc comme ça, on peut caractériser la taille des grains. Donc ce que ça veut dire, c'est que finalement, sur les comètes en surface, on a des grains relativement gros, de l'ordre de, disons, quelques dizaines à 100 microns, alors que dans la coma, on a des grains beaucoup plus petits. Donc ça veut dire que dans le processus de sublimation, les grains qui sont en surface vont se fragmenter pour devenir de plus en plus petits. Ça, c'est intéressant. Alors peut-être que sur Tempel 1, ils se sont fragmentés à cause du phénomène d'impact, mais en tout cas, sur Hartley 2, on retrouve la même conclusion alors qu'il n'y a pas eu d'impact. Donc dans ce processus d'éjection des grains, il y a aussi un processus de fragmentation qui les met en plus petits morceaux. Et ce qui est fondamental aussi dans l'affaire, c'est qu'on se rend compte que la glace, elle est pure. Donc ça veut dire qu'ici, elle n'est pas mélangée à de la poussière. Donc si elle était mélangée à la poussière, la forme de la bande serait différente. La différence entre un mélange intime et un mélange, disons, séparé. Ça a tendance à remettre en cause le modèle de Greenberg. Alors, qu'est-ce que c'est que le modèle de Greenberg? Vous avez ici une image. C'est la manière dont on voit les grains interstellaires et les grains cométaires aujourd'hui. Donc, on pense qu'on a au milieu donc, des silicates, des matériaux réfractaires, entourés, disons, d'une pellicule de glace. Alors ça colle pas bien, parce que si on avait observé cela, on n'aurait pas les observations telles qu'on les fait, parce que dans ce cas-là, les grains de glace, ils ne seraient pas purs, ils seraient mélangés à la poussière. Donc ça veut dire que peut-être que ce modèle-là, en fait, il n'est pas vraiment adapté. Alors ça n'exclut pas le modèle, mais en tout cas, c'est une petite remise en cause. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est que la glace qu'on a détectée, on ne l'a pas détectée directement au début sur l'impact, mais un peu plus tard. Donc c'est des matériaux qui viennent d'un peu plus profond. Et on se rend compte que la glace, on ne la trouve qu'à partir de 1 mètre. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, comme le montrent les études thermiques, probablement que dans le premier mètre, il y a peu ou pas de glace et qu'il faut aller chercher un mètre sur la surface pour commencer à trouver la glace sur les comètes. Alors maintenant, si on regarde les travaux récents sur la comète Hartley 2, ce qui est important, c'est que pendant très longtemps, et c'est probablement le cas encore d'ailleurs pour de nombreuses comètes, l'activité, on a toujours pensé qu'elle était dominée par l'eau, puisque c'est le constituant volatile le plus important. Mais on a l'impression aujourd'hui que sur des comètes extrêmement actives comme la comète Hartley 2, c'est pas forcément l'eau qui va dominer l'activité, mais c'est le CO et le CO2 qui sont des matériaux plus volatiles. Alors pourquoi on pense cela ? Et bien tout simplement parce que ici, donc, vous avez une image donc, du noyau de la comète, le Soleil est à droite, et vous avez des cartes des différents composants. Donc on va regarder uniquement donc, la carte de l'eau. Donc l'eau, elle est éjectée dans une direction privilégiée qui n'est pas la direction qui va vers le Soleil. Alors que le CO2, lui, est éjecté directement dans la direction du Soleil et aussi est compatible en fait, avec la poussière qu'on voit s'éjecter. Donc ça veut dire que la poussière qu'on observe essentiellement depuis le sol, elle serait éjectée essentiellement par le CO2. Ça paraît d'autant plus vrai que le CO2, non seulement il entraînerait avec lui la poussière, mais il entraînerait aussi avec lui directement les grains de glace que l'on retrouve, eux, dans cette partie-là. Donc ça veut dire que le CO2, en tout cas pour ces comètes très actives, pourrait être le facteur déterminant pour l'activité, beaucoup plus que l'eau. Donc ça, c'est une conclusion assez récente et ça n'avait jamais été observé avant. Donc ça, c'est vraiment un truc nouveau. Donc ça répète ce que je vous ai dit, donc on va passer. Donc la mission Stardust Next, donc, qui est retournée donc, sur la comète Tempel 1, elle a pu, et c'était un de ses objectifs, étudier des changements à la surface. Donc on a visité la comète 2 fois en l'espace de 5 ans. Et on a pu essayer de trouver des changements en surface. Donc vous avez ici un exemple de changement en surface. Donc c'est sur ces parties lisses. Encore une fois, on y revient. Donc ici, vous avez l'image en haut, l'image en 2005, et en bas, l'image en 2011. Donc on constate, par exemple, dans cette boîte jaune, qu'on avait 3 dépressions disjointes, clairement, et que lorsqu'on est retourné, ces 3 dépressions n'en forment plus qu'une seule. Donc on a eu regroupement, donc ça veut dire qu'on a eu érosion à la surface du noyau. De la même façon, ici, même si c'est un peu moins clair, la forme de la fin de cette partie lisse a changé. Donc on sait qu'on a des parties, on l'a quantifié, qui ont été érodées, disons, d'une 50 mètres à peu près. On sait que la surface se modifie effectivement en surface et que cette partie lisse a tendance à rétrécir. Alors du coup, on peut se demander si en fait cette partie lisse, il y a très longtemps, elle n'occupait pas finalement entièrement la partie qui est ici et qui aujourd'hui formerait une sorte de dépression. Donc peut-être que cette partie lisse recouvrait entièrement cette zone-là il y a très longtemps. Sur Stardust Next, ce qui était important, c'était de retrouver le cratère de la mission Deep Impact. Donc la mission Deep Impact en 2005 a fait un impact en surface, mais on n'avait pas pu l'observer, puisqu'il y avait trop de poussière qui était sortie du noyau à ce moment-là, et on n'arrivait pas à voir à travers. Donc c'était optiquement épais, donc comme un brouillard. Mais là, en retournant, on s'est dit, bon, bah, on va pouvoir essayer d'observer donc, le cratère. Alors à gauche, vous avez l'image avant, donc en 2005, et à droite, vous avez l'image après, en 2011. Et normalement, on doit voir le cratère en surface, si en tout cas, il y en a un. Alors ça ne saute pas aux yeux, ça, c'est clair. Donc déjà, on peut dire qu'on n'a pas formé un cratère du style de celui qu'il y a au-dessus ou en dessous. Sinon, on l'aurait clairement vu. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'on a un bloc de rocher qui était présent avant, qui ne l'est plus après. Donc, il y a clairement eu quand même un phénomène en surface ici qui s'est passé, qui résulte très probablement de l'impact, qui a, disons, dégagé ce rocher, ou en tout cas, qui l'a recouvert de poussière, qui fait qu'on ne le voit plus. Donc, on a probablement impacté. Alors, si on regarde un peu plus en détail, on se rend compte qu'en fait, au centre, donc là, c'est l'endroit où il y a eu l'impact, il y aurait effectivement une espèce de dépression circulaire avec un probablement aussi au centre. Alors ce qui est sûr, c'est qu'en tout état de cause, ça ne saute pas aux yeux et on n'a pas créé un cratère tel qu'on peut les créer sur la Lune, vraiment bien identifié, etc. Donc ça, c'est très probablement compatible avec le fait que le noyau il est poreux, donc il y a une grande partie de l'énergie en fait, qui est absorbée par le noyau. On ne forme pas des cratères d'impact comme on peut le faire sur des corps beaucoup plus durs. Alors pour terminer, je vais parler de la mission Stardust Next, qui a ramené des échantillons sur Terre. Ce qui est important finalement avec cette mission, c'est que ce sont des exemples des échantillons qu'on a ramenés. On a réussi à trouver des matériaux qui étaient formés à haute température. Donc ici, vous avez différents exemples de matériaux. Vous avez donc des olivines, par exemple ici, de la forstérite et des silicates. Donc ce sont des matériaux qui sont formés à haute température, donc près du Soleil. Or, on les trouve sur les comètes, qui elles, on sait, elles viennent de loin du Soleil. Donc ça veut dire clairement que pendant le début de la formation du système solaire, il y a des matériaux formés près du Soleil qui ont été éjectés dans la banlieue externe pour pouvoir être incorporés aux comètes. Donc c'est ce qu'on appelle un peu le mélange radial. Et aujourd'hui, cette idée de mélange radial, en fait, elle est de plus en plus admise et on se rend compte qu'au lieu d'avoir des caractéristiques bien précises avec des frontières claires d'objets, donc on a la ceinture d'astéroïdes, la frontière de glace où plus près, on n'a que des objets sans glace et au-delà, on n'a que des objets avec de la glace, après on a les comètes, etc. Ben, ces frontières sont de plus en plus floues. Et ça s'illustre bien par les comètes qui ont des matériaux formés à haute température près du Soleil, mais aussi par récemment, on a trouvé donc des comètes dans la ceinture principale d'astéroïdes, ce qu'on appelle donc les Main Belt comètes. Donc vous avez deux exemples. La première, c'était en 1996, donc c'était la comète Elspeth-Zarro, elle a une orbite d'astéroïdes, mais en fait c'est une comète puisqu'elle est active. Ou alors plus récemment, un astéroïde, donc 593 Shela, qui en 2010 a montré du dégazage. Donc ça veut dire que, et ça le démontre bien aujourd'hui, qu'on a des corps, disons, des frontières floues, et clairement on a un mélange et un contenu d'objets. Donc le fait qu'il y ait des objets dans la ceinture d'astéroïdes qui soient encore actifs, peut-être qu'ils ont encore de la glace d'eau en surface, et en tout cas c'est assez compatible avec l'idée qu'on se fait que probablement l'hydratation sur Terre a pu se faire à partir de ces matériaux qui viendraient de 3 unités astronomiques à peu près. Voilà, donc finalement l'avenir, c'est clairement, donc pour nous en tout cas, c'est la mission Rosetta, donc une mission de l'Agence spatiale européenne, donc qui va aller en 2014 donc à la fois donc en orbite autour de la comète Churyumov-Gerasimenko, mais aussi se poser sur cette comète. Alors c'est une mission qui coûte environ 1 milliard de dollars. Et alors ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est essentiellement de l'argent, c'est de l'argent public, mais qui est investi dans des industriels, donc ça fait aussi travailler énormément de personnes. Il y a 11 instruments sur l'atterrisseur et quasiment autant sur l'orbiteur. Enfin, 11 sur l'orbiteur et quasiment autant sur l'atterrisseur. Donc, on espère, à partir de cette comète, énormément avancer. Et le gros avantage, c'est qu'au lieu de faire comme ça un passage extrêmement bref de quelques minutes près de l'objet, là, on va suivre l'objet pendant qu'il se rapproche du Soleil. Donc, on va pouvoir voir l'évolution de l'activité de la comète au fur et à mesure du temps. Et on espère, en direct, voir des évolutions et des changements en surface. Alors finalement, pour terminer, c'est peut-être qu'au-delà de Rosetta, en 2014, 10 ans plus tard, on ira directement sur un astéroïde. En tout cas, c'est ce que prétendent faire les Américains, puisque donc Obama a dit qu'en 2025, il ferait une mission spatiale vers un astéroïde. Et actuellement, c'est dans le cahier des charges de la NASA. Et en tout cas, il y travaille très sérieusement. Donc peut-être que ce sera d'abord une avancée pour l'homme, probablement, mais aussi du point de vue scientifique, on aura alors probablement une multitude d'informations et en tout cas, on pourra facilement ramener des échantillons puisqu'on peut espérer que si on ramène les hommes, on ramènera des échantillons avec. Voilà, je vous remercie.
C'était Olivier Grossin du laboratoire d'astrophysique de Marseille. Il évoquait au cours de sa conférence au Bureau des Longitudes les nouvelles données dont nous disposons sur les comètes. Restez à l'écoute de nos retransmissions et téléchargez dès maintenant les autres conférences du Bureau des Longitudes sur le site de Canal Academy dans les émissions En colloque, rubrique Science. Les conférences du Bureau des Longitudes sont ouvertes au public. Pour connaître les prochaines dates, connectez-vous à leur site www.bureau-des-longitudes.fr. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.